entame ton après-midi en douceur avec un grain d'inspiration et un nuage de singularité. Au Café des Métiers, tu découvriras la face cachée de certaines professions, tu envisageras une nouvelle vocation ou tu te reconnaîtras dans le partage de l'invité du jour. Motivation, difficulté, doute, espoir et passion. Installe-toi et laisse-toi embarquer par le Café des Métiers, tout de suite, sur Prune. You may have the money, but you've got to go. It's sensible, it's sensible. And those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café des Métiers. Moi c'est Charlotte et tous les mercredis, on se retrouve pour découvrir les coulisses professionnelles de l'invité du jour. En cette période de fête où la gastronomie française est mise à l'honneur tout en modération, nous allons parler d'un domaine qui plaît à un grand nombre d'entre nous, le vin. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir au Café des Métiers Sophie Iacono, caviste de notre région. Dotée d'un parcours aussi riche qu'un grand cru, après des études en commerce international, Sophie se lance dans une formation consacrée à la perception sensorielle et à la dégustation, à la faculté d'œnologie de Bordeaux, et lance les millésimes de Sophie il y a 10 ans. Auto-entrepreneuse, formatrice, animatrice d'ateliers dégustation, je vous invite à explorer le parcours multicasquette de Sophie qui vous permettra peut-être de développer votre goût de l'entrepreneuriat ou de décanter vos projets professionnels. Bonjour Sophie.
Bonjour Charles.
Bienvenue au Café des Métiers et merci de venir nous partager ton expérience au micro de Prune. Alors il y a quelques années, tu t'es dirigée vers des études en commerce international. Quel était ton projet à l'origine, Sophie ?
Alors j'avais un projet, déjà j'aimais particulièrement parler anglais. Alors je n'étais pas très forte, j'ai pas un niveau scolaire incroyable, mais j'étais hyper motivée. Je me disais que bon, l'anglais, donc je te parle de ça en 2003, l'anglais c'était voilà, la porte ouverte à pas mal de projets, de métiers, etc. J'aimais aussi bien l'espagnol, donc je me suis dit voilà, j'aime les langues, allons-y pour un BTS en commerce international. Mais c'était vraiment les langues au départ qui m'ont dirigée vers ça.
D'accord. Ok. Et ensuite, plusieurs années plus tard, tu as repris une formation pour devenir caviste. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ?
Alors le lien, en fait, après mon BTS, j'ai fait donc un master, donc pareil en commerce international. Et mon premier job, ça a été un peu un hasard, j'ai travaillé dans le vin. Je me suis retrouvée chez un importateur de vin du monde, parce que les études de commerce international, elles t'emmènent à l'import ou à l'export, selon ce que tu veux faire. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le vin. C'était un peu le hasard, l'opportunité qui a fait que. Il s'est avéré que c'est devenu une passion. Et que finalement, de fil en aiguille, le côté international a un peu disparu. Mais c'est le vin qui est resté.
Et quand tu as débuté cette formation à Bordeaux, en parallèle, tu continuais de travailler dans le commerce ?
Alors, pour le coup, au moment de la formation, j'étais en création d'entreprise. Donc, j'avais plus d'activité professionnelle, j'étais au chômage. Et à l'époque, j'ai eu, je pense, beaucoup de chance. Je suis tombée sur une période où on investissait, ou Pôle emploi à l'époque, pas France Travail, à l'époque c'était Pôle emploi, permettait en fait aux créateurs et aux porteurs de projets de les accompagner dans une formation. Parce que moi, j'étais une pure autodidacte du vin. C'est-à-dire que mon premier job dans le vin, j'ai tout appris sur le tas. J'ai appris en dégustation, j'ai appris avec mes collègues, avec le gérant de l'entreprise où je travaillais, qui nous égouttait très régulièrement des vins pour travailler du coup le palais, pour travailler l'aspect sensoriel, etc. Mais pour créer l'entreprise, je souffrais un peu de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur.
On en parle souvent.
Voilà, je me suis dit, bon, il faut quand même que je fasse une formation, diplômante ou pas, mais que je retourne sur les bancs de l'école pour moi, pour me sentir quelque
légitime.
Part un peu légitime, exactement, et à ma place.
Donc tu disais que tu étais dans une période de chômage, aidée donc par Pôle emploi. Est-ce que c'est culpabilisant ou pas ? Ce genre de période où il y a un peu d'incertitude, tu te lances dans un projet sans être toujours certain qu'il aboutisse. Comment tu te sentais à ce moment-là ?
J'étais, le vivais plutôt bien. Moi, j'ai pas eu de chance dans le salariat. Alors, heureusement, c'est à la marge, hein, mais j'ai été licenciée économiquement. Mmh. Donc, si tu veux, il y a eu tout un cheminement à faire sur est-ce que j'ai ma place dans une entreprise. La dernière, je l'ai quittée dans la douleur. Donc, OK, il y a l'aspect financier du licenciement éco, etc. Mais il y a tout le côté de l'incertitude. Tu sais pas où tu vas aller. Tu sais pas quand sera ton dernier jour de travail. Tu sais pas si tu dois partir avant que le bateau coule définitivement ou s'il faut sauter avant. En gros, hein. Donc c'était plutôt ça qui a été difficile. Une fois que ça a été terminé, c'était derrière moi. Et en fait, je me suis dit, finalement, j'ai besoin de travailler pour moi. J'ai besoin de prendre mes propres décisions et d'en assumer finalement moi-même les conséquences si ça devait ne pas fonctionner. C'était un peu ça l'idée. Donc c'est plutôt une période qui m'a boostée pour trouver un projet. Et puis comme je te disais, moi je crois beaucoup aux rencontres et j'ai été aussi hyper bien accompagnée. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très bien entourée pour le démarrage. Et ça, je pense que ça m'a vraiment aidée et vraiment boostée.
Donc les rencontres ont eu un gros impact dans tes projets professionnels ?
Oui, bon, clairement. Déjà pour le vin, tu vois, ça a démarré même en master. Parce qu'en fait, j'avais mon mémoire de fin d'études à rédiger. Et comme je n'étais pas forcément très, très bonne élève, mon tuteur de mémoire me dit « Bon, écoute, à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on trouve une idée. Parce qu'il faut écrire le mémoire, il faut le rendre à telle date, il faut soutenir à telle date. » Et c'était un fou de vin. Jean-Guy, de son prénom, s'il écoute. Mais il le sait, hein, on a l'occasion d'en discuter parfois. Et il me dit, mais si tu veux, moi j'adore le vin. J'ai un projet moi-même de création d'entreprise, de devenir caviste. C'était son projet à lui. Mais il me dit, comme tu as voyagé, comme tu as passé ton parcours à l'étranger, mon parcours universitaire, il me dit, tu as goûté sûrement des vins du monde. On va bosser un peu sur le positionnement des vins français à l'export. Mmh. Parce que j'étais une filière commerciale marketing. Et puis, de fil en aiguille. Voilà, la passion est née comme ça. Donc ça a été un premier mentor, je dirais. Hein. C'est vraiment le terme qui convient. Et puis, les années qui ont suivi font que quand j'ai perdu mon job, je me suis retrouvée donc à Pôle emploi et j'ai été accompagnée par une structure. Et pareil, dans cette structure, on m'a confié à un tuteur, voilà, à quelqu'un qui suivait mon projet de création d'entreprise. Et pareil, avec qui le feeling est hyper bien passé, qui était, moi j'aime bien, je suis une rêveuse, mais je suis très ancrée. J'ai besoin, voilà, j'ai plutôt les pieds sur terre. Et
pragmatique.
Ouais, c'est ça. Et la personne en question était expert comptable.
Très concret.
Et donc, on a fait beaucoup de tableaux, beaucoup de calculs. Il m'a dit, si tu veux gagner ta vie, il faut que tu fasses tant de chiffres d'affaires, il faut que tu fasses tant de bénéfices, il faut que... On avait tout planifié ensemble.
Tu penses que c'est important pour toi, avant de donner vie à un concret, à un rêve, pardon, de voir la partie concrète, est-ce que c'est faisable ou pas avant ?
C'est sûr. Ouais. La création d'entreprise, il y a trois sujets, hein, dans la création d'entreprise aujourd'hui. C'est est-ce que déjà c'est faisable ? Est-ce qu'il y a un marché ? Est-ce qu'il y a des clients pour acheter mon produit ? Parce que je peux avoir une très bonne idée, la meilleure de la terre, si personne ne l'achète jamais, globalement, ça ne fonctionnera pas. Donc, est-ce qu'il y a un marché pour mon produit ? Est-ce qu'il y a des clients ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que j'ai suffisamment de fonds pour démarrer ? Est-ce que je suis suffisamment entourée ? Est-ce que mon projet est suffisamment réaliste à ce niveau-là ? Et puis, justement, le dernier sujet, est-ce qu'il y a des personnes autour de moi pour m'aider à monter ce projet ? Comment est-ce que je peux me faire aider, me faire entourer ? Et on a la chance en France, et à Nantes notamment, d'avoir énormément d'institutions, d'associations qui accompagnent les porteurs de projets. Mmh. Voilà.
Et en parallèle de ces personnes qui ont eu la place de mentor ou des personnes qui t'ont aidé dans ce projet, est-ce qu'à l'inverse, il y a des personnes qui t'ont fait douter ou qui parfois par jalousie ne t'ont pas spécialement motivé ou...
Non, je pense que il n'y a jamais... Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour douter, j'ai envie de dire.
Oui, tu vois, on le fait très bien nous-mêmes.
Voilà, finalement, tu doutes toi-même, parce que c'est normal. Hein. Il y a des périodes où tu es hyper motivé par le projet, et puis d'autres moments où c'est plus difficile. Donc non, c'est plutôt s'entourer des bonnes personnes, et puis c'est aussi parfois s'entourer de proches qui, au contraire, sont là pour t'accompagner, etc. Moi, que ce soit mon conjoint, ma famille, les amis, qui évidemment, quand tu montes une boîte, sont tes premiers clients. forcément, sont les premières personnes à tester, sont les premiers retours. Puis c'est aussi, mais tu sais, c'est comme la dégustation de vin et les perceptions sensorielles dont tu parlais tout à l'heure. Hein. C'est aussi un peu l'école de l'humilité. C'est savoir se remettre en question, accepter que quelqu'un d'hyper proche te dise ton idée n'est pas bonne. Ouais. Ou au contraire, bah, j'y crois pas. Alors est-ce que tu l'as mal pitché ? Est-ce que tu l'as mal présenté ? Ou est-ce que c'est le projet en lui-même qui paraît pas bon ?
En tout cas, il y a quelque chose etc. à questionner.
Mais il y a quelque chose à questionner. Ouais. Donc, c'est plutôt s'aider à se remettre en question. Et l'entourage est hyper important pour ça, en fait.
D'où l'importance de bien s'entourer.
Le Café des métiers, un ou une invitée, une foule d'expériences.
Alors Sophie, en préparant l'émission, tu m'as partagé l'importance pour toi de persévérer et de s'efforcer dans le travail. Comment ces mots résonnent pour toi ?
Écoute, ça fait écho un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le côté c'est, dont on parle beaucoup aussi dans la création d'entreprise, dans le travail, hein, c'est le côté la résilience. Quoi, hein, en fait, j'ai une idée. Moi, tu vois, en 10 ans, j'ai eu plein d'idées. J'ai toujours beaucoup d'idées. C'est un peu le propre des personnes qui entreprennent.
Hein. Est-ce que toutes les idées doivent être mises en œuvre ?
Eh bien, pas sûr. Pas sûr. Et c'est ça, en fait. C'est des fois, tu as une super idée, puis ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau, ça ne prend pas. Alors, il y a plein de questions qui se posent hein, en termes de marketing, en termes de commerce purement. Bah, est-ce qu'il y a des clients pour cette idée ? Est-ce que mon prix est correct ? Est-ce que j'ai correctement communiqué, etc. Donc, en fait, il faut s'efforcer. Il y a des choses qu'on fait. Donc, soit on le refait différemment, soit on laisse tomber complètement et on laisse l'idée dans un placard et elle reviendra, elle ressurgira ou pas.
Peut-être.
Plus tard. Mais faut s'efforcer, faut travailler. Tu sais, dans une période, je trouve, où on est quand même très assisté. Alors, moi, je suis génération Internet et encore que, tu vois, moi, j'ai eu un smartphone, je devais être en terminale. Hein. Ouais. Et encore, c'était même pas un smartphone, d'ailleurs, je devais être un téléphone tout court.
À clapet.
Voilà, à clapet. Ou alors, pour que tu poussais. Là. et en fait, on est aujourd'hui un peu dans un côté, l'information vient très vite à nous. On a besoin de faire peu d'efforts, finalement. On veut ça, on s'efforce pas toujours. Parce qu'on a l'impression qu'on va forcément trouver capter une information qui a déjà été faite, la vie de quelqu'un qui l'a déjà vécu. Tu sais, c'est aussi se renseigner avant d'acheter quelque chose. Bah, on va sur un blog, on regarde les avis, etc. Donc ça, c'est super. Et dans le travail, c'est important de collecter comme ça des choses qui existent déjà. Mais à un moment donné, c'est aussi bien de s'efforcer, de dire, bah, tiens, il y en a qui n'ont pas réussi ou il y en a qui ont réussi. Est-ce que moi, je vais y arriver, mais je dois me remettre en question et puis je dois bosser pour ça. Et la valeur du travail, quand tu montes une entreprise, elle est hyper importante. Et c'est aussi un bon argument, je pense parfois même de vente, ne serait que pour tes clients. Tu sais, moi, j'ai plein de clients qui me disent, mais vous travaillez toute seule, bah oui, mais comment vous faites ? Alors des fois, j'explique, mais je dis aussi, bah, c'est beaucoup de boulot, c'est aussi des fois beaucoup de sacrifices, mais c'est aussi un choix et un luxe de pouvoir s'organiser comme on veut, de pouvoir choisir les moments où on travaille beaucoup, ceux où on veut moins travailler. Voilà, il y a dans toutes les situations des avantages et des inconvénients, mais c'est sûr qu'il faut, à un moment donné, il faut beaucoup travailler. Quoi.
Et tu parlais tout à l'heure des idées qui ne prennent pas vie. Comment on fait pour lâcher prise ?
Bah, je pense qu'il y a un moment où il faut se rendre à l'évidence. Il y a un moment aussi où, dans une entreprise, il y a des questions de rentabilité. C'est-à-dire que parfois, on a une idée, elle marche moyennement, et il faut accepter qu'elle n'est pas rentable. Donc, c'est un peu, tu sais, le cœur et la raison. Des fois, bah, on a hyper envie de faire ça, on trouve que c'est vraiment hyper cool, on se dit, mais pourquoi les gens ne trouvent pas ça aussi cool que nous ? Mais il y a le côté raison qui dit, bah, finalement, tu vois, pour la pérennité de l'entreprise, pour les charges, pour tout ce que ça engendre derrière, il faut arrêter. Donc y a l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un peu ça. C'est des choix de cœur, mais aussi des fois c'est se résigner et dire bah non, en fait là, pour la survie de l'entreprise, pour ma rémunération, parce qu'il est quand même question aussi de gagner sa vie, bah, il faut arrêter de faire ça.
Et on parle de lâcher prise pour toutes ces idées qui ne prennent pas forcément vie, mais il y a aussi le lâcher prise de se dire tout ne peut pas être parfait, encore plus aux prémices d'une entreprise. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune entrepreneur perfectionniste qui a du mal un petit peu à lâcher prise sur ce plan-là ?
Alors je pense qu'il faut tester des choses. En entrepreneuriat, c'est hyper important de faire toujours un test. Mais ça marche pour plein de choses hein, dans la vie, même professionnelle, même perso d'ailleurs. C'est de se dire, bah tiens, je teste mon idée sur un petit échantillon de personnes, sur un petit échantillon de clients. Je le teste comme je l'ai pensé, au prix que je l'ai imaginé. Et puis ensuite, je réfléchis et je regarde comment est-ce que ça prend et qu'est-ce que je dois changer. Donc peut-être que la perfection, il faut réussir peut-être à aller la chercher une fois qu'on a testé l'idée, qu'on s'est efforcé et qu'on a essayé de trouver le meilleur moyen de. Parce que si on cherche la perfection et qu'on passe beaucoup de temps sans tester l'idée et qu'en fait elle tombe à l'eau, il y a aussi ce côté un peu rentabilité, tu sais, du travail et du temps passé.
Du temps perdu
du coup, ouais.
Merci pour ce conseil. Donc, tester au maximum.
C'est ça.
Petite pause musicale maintenant avec le morceau « Are you gonna go my way ?» avec un magnifique accent de Lenny Kravitz. Quelle énergie sur cette musique! C'est Charlotte et on est toujours au Café des Métiers avec Sophie. Merci pour ce joli moment musical. Pourquoi aimes-tu cette musique, Sophie?
Eh bien, exactement pour ce que tu viens de dire, pour l'énergie. C'est rock, mais en même temps, bah, voilà, c'est Lenny Kravitz. Donc, voilà, c'est un chanteur que j'écoute depuis très longtemps, que j'ai vu en concert et qui a une vraie prestance en fait sur scène. Oh. Donc il y a un vrai spectacle et en même temps ça peut être des fois de la balade et hyper intimiste dans un zénith. Donc non, il y a une belle énergie justement.
Ok, ça donne envie d'aller découvrir plus d'œuvres. On va reparler un petit peu plus précisément de ton métier de caviste, Sophie. Dans ton quotidien, comment tu organises tes journées? Comment tu organises aussi les périodes plus denses d'activité au niveau de la vente de vin?
Alors au niveau de la vente de vin, là, on est en plein dedans. Alors moi, ma particularité, c'est que je n'ai pas de magasin. Donc, je fais vraiment de l'événementiel. Donc, je vais chez mes clients, entreprises, particuliers, faire des animations, de la dégustation, etc. Et donc là, on est sur une période un petit peu dense parce qu'on va arriver sur Noël. Donc là, on a des coffrets cadeaux, etc. à livrer. Donc, on s'organise. On est un peu couteau suisse. Hein, donc, on fait un peu de com, on fait un peu de commercial. Je vais faire aussi de la livraison.
Tu dis « on » parce que tu as des soutiens dans ces moments-là ou...
Ouais.
Ouais.
Alors souvent, je me fais aider. Alors moi déjà, j'ai pris le choix de travailler avec des freelances aussi sur certains sujets, notamment tu vois sur la communication. Je passe par une agence qui m'accompagne dans tout ce qui est rédaction de mes posts sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est un métier et puis c'est pas le mien. Et puis après, je peux me faire aider ponctuellement pour de la livraison. Bah, pareil, c'est souvent la famille qui met un peu la main à la pâte. Donc effectivement, c'est des périodes comme ça où tout seul, parfois, c'est un peu juste. Mmh.
D'accord. Et concrètement, ta formation donc à Bordeaux en œnologie, qu'est-ce que vous y apprenez là-bas ? C'est précisément basé sur le vin ou il y a aussi cet aspect formation ? Qu'est-ce qu'on vous apprend ?
Alors, le sujet de la formation, c'était vraiment les perceptions sensorielles. Donc, l'objectif, c'était de se dire que quand je déguste un vin, qu'est-ce que je ressens ? Donc, on va essayer de mobiliser tous nos sens. Celui qu'on mobilisera le moins, évidemment, c'est l'ouïe. Même si quand on fait une dégustation de vin effervescent, on peut écouter les bulles. Mais dans l'absolu, on va essayer de mobiliser tous ses sens et d'être vraiment sur les perceptions sensorielles. Qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que je ressens de l'acidité, de l'amertume ? Est-ce qu'il y a de la fraîcheur ? Au contraire, est-ce que ça me paraît chaud ? Est-ce que ça me paraît capiteux, etc. Et on va essayer après de situer les vins par rapport à toutes ces informations-là sur la sensorialité, en fait, en disant est-ce que c'est un vin qui vient d'un climat plutôt chaud, d'un climat plutôt frais ? Est-ce que c'est un vin jeune ? Est-ce que c'est un vieux vin ? Et on va vraiment être à l'écoute de ces perceptions. Donc l'objectif, c'est ça, après moi, que je retranscris dans mes ateliers chez mes clients, c'est pas d'être sûr, je fais tourner le vin dans mon verre et puis je dis, ah tiens, ça sent pêche. Pêche, ananas, machin, en fait, tout ça, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, finalement, c'est qu'est-ce qu'on va ressentir. Et c'est ce côté sensorialité, parce qu'on a tous cette sensibilité quelque part. Et puis surtout, donner confiance. Qu'est-ce que je ressens ? Et surtout, le verbaliser. Être capable de dire, bah tiens, moi je trouve que ça sent ça, je ressens ça. Et puis travailler aussi le tactile. Quand le vin est dans ta bouche, tu vas un peu le faire circuler, le faire chauffer finalement. Et tu vas avoir de nouvelles perceptions. Et qu'est-ce que ça va t'apprendre sur la provenance du vin, sur son potentiel de garde, sur des accords mets-vins par exemple, etc.
Et pourquoi pour toi c'est important de sensibiliser à ces connaissances sur le vin ?
Bah, parce que c'est un produit, si tu veux, de l'agriculture déjà. Et je trouve qu'aujourd'hui encore, même si c'est moins vrai, quand j'ai commencé il y a plus de 15 ans dans le vin, c'était vraiment ça, il y a un côté toujours un peu élitiste. Tu vois, contrairement à la bière par exemple. La bière, c'est beaucoup plus facile d'accès, encore que, il y a des vraies spécificités. Mais tu ne vas jamais chez les gens quand tu ramènes une bière en disant « oh bah, voilà, tu n'as jamais honte de dire que tu n'y connais rien », etc. Par contre, le vin, tout de suite, on est toujours un peu en train de se dire oh, « on m'a conseillé, je ne sais pas trop », etc. Il y a un côté très clivant.
On se dédouane.
Voilà, il y a les sachants et puis les autres. Alors qu'en fait, en réalité, ce qui nous intéresse, c'est de se dire bah, « c'est en fait un produit hyper accessible qu'il faut un petit peu plus démocratiser en le simplifiant au maximum parce que ça peut être un produit simple.
» Et tu viens d'y répondre un petit peu, mais pour toi, c'est quoi la différence majeure entre un vendeur de vin classique et un caviste ?
Le caviste, si tu veux que ce soit moi, même sans magasin ou mes collègues qui ont un point de vente, c'est que tu as vraiment du conseil. C'est-à-dire que le caviste, il va d'abord découvrir ce que toi tu veux, pourquoi tu veux acheter ce vin, est-ce que c'est pour toi, est-ce que c'est pour quelqu'un, etc. Donc tu as vraiment cet aspect relationnel et conseil que tu ne vas pas forcément retrouver dans une grande surface où tu vas être tout seul devant tes rayons. Donc la différence, elle est vraiment là.
Pour animer les ateliers, est-ce que tu as une formation d'animatrice ? Ou c'est venu naturellement ?
Non, c'est plutôt venu naturellement.
D'accord.
Voilà. Là, c'est vraiment structurer l'atelier. En fait, on fait ce qu'on appelle la dégustation analytique. Hein. Donc, on reprend l'ordre de dégustation, le visuel, l'olfactif et puis le gustatif.
Donc, il y a la formation à Bordeaux d'œnologie. Et est-ce qu'il existe, prends ton temps, est-ce qu'il existe une autre formation particulière pour travailler dans le métier du vin ? Ou est-ce qu'un amateur qui aime beaucoup ce domaine peut se lancer dans une activité sans formation particulière ?
Bah, tu peux toujours te lancer. Après, l'idée, c'est d'avoir toujours de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu as envie de devenir un commerçant et donc d'avoir un point de vente ? Est-ce que tu veux travailler en restaurant ? Est-ce que tu veux être vigneron ? En fait, tout dépend de ton projet. Mais des formations, il y en a plein. Après, c'est des métiers et passions. Donc forcément, bah, ça, à toi après de choisir l'orientation que tu veux donner. Je suis désolée.
Non, pas de souci. C'est le froid hivernal qui casse la voix. Est-ce qu'il y a des critères particuliers que tu prends en compte quand tu choisis tes vins ?
Alors, pas forcément de critères particuliers, si ce n'est la dégustation et le goût. Et puis après, parfois, l'histoire du vigneron.
Donc, si ce n'est le vigneron, tu favorises les producteurs locaux.
Pardon, je suis désolée.
Non, pas de soucis, ça arrive, c'est humain.
C'est le direct.
C'est ça.
Producteurs locaux, oui, parce qu'en fait, on a beaucoup de demandes. Tu vois, il y a un sujet qui est intéressant, c'est de se dire, bah, en fait, les Nantais, typiquement, se sont reconcentrés un petit peu sur le côté local. Et ça, on travaille beaucoup de vignerons locaux, justement, pour cette raison-là.
D'accord, très bien. On sait que si on fait appel à tes services, on goûtera les productions locales majoritairement.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile.
Et ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
C'est toujours Charlotte et on est au Café des Métiers avec Sophie, caviste et formatrice. Sophie, si tu pouvais donner un conseil à une personne qui souhaiterait devenir caviste, qu'est-ce que tu lui dirais ?
Bah, je dirais que sur ce métier-là, déjà, premier sujet, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'apporter aux clients ? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme identité ? Tu vois ? Est-ce qu'on a envie de choisir des vins selon ses affinités, etc. Et puis, est-ce qu'on veut faire plus d'animation, dégustation, comme moi, ce que je fais ? Ou est-ce qu'on veut faire plus de ventes ? C'est vraiment le choix un peu du cœur aussi. Mais comme je disais tout à l'heure, où c'est qu'il y a des clients ? Est-ce qu'il y a un projet derrière ? Et est-ce qu'il y a vraiment un besoin ?
Est-ce qu'il y a une chose importante qu'on doit retrouver dans son travail pour toi ? Peu importe le domaine.
Bah, si on a la chance de faire de vivre de sa passion, c'est encore mieux. Moi, je pense que c'est un vrai atout aujourd'hui. Et c'est une vraie chance. Et moi, je dis toujours, quand je suis en animation, quand je suis en formation, je dis toujours même aux étudiants que je croise, que je m'estime toujours moi très privilégiée de vivre de ma passion et justement d'avoir ce côté un petit peu... t'as jamais vraiment l'impression de travailler parce que tu parles d'un sujet qui te passionne.
Très joli conseil. Bon, nous allons mettre fin à ton supplice, Sophie. Tu es en train de perdre ta voix. Sur quelle plateforme on peut retrouver ton travail, si ça nous intéresse ?
Alors, déjà sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai un compte Instagram, les millésimes de Sophie, Facebook également. Et puis, j'ai un site internet, www.lesmillésimesdesophie.com, sur lequel on peut retrouver une présentation de mes activités, entreprises, particuliers. Et j'ai une petite e-boutique où on peut commander en ligne des coffrets, on peut commander des cartes cadeaux, également. Principalement là, sur la période de fêtes de fin d'année.
Très bien. Eh bien, merci Sophie. Je mettrai les références sur le site Prune en bas du podcast. Merci à toi pour ton partage.
Merci beaucoup.
Je te souhaite plein de belles choses pour la suite de tes projets. Quant à nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve mercredi prochain à 13h30 sur Prune pour le rendez-vous du Café des Métiers et tous les jours en podcast sur prune.net. Je vous souhaite une belle après-midi. Travaillez bien, aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez et surtout, prenez soin de vous.